Dans le livre deutérocanonique de la sagesse, au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 9. La sagesse se tient près de toi, et elle connaît tout ce que tu fais. Elle était présente quand tu créas le monde. Elle sait ce qui t'est agréable, ce qui est droit et conforme à tes commandements. Fais-la descendre du ciel, de ta demeure sainte. Envoie-la-moi de ton trône glorieux, afin que, par sa présence à mes côtés, elle m'aide dans mes travaux et me révèle ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera pour que j'agisse de façon raisonnable. Par sa lumière glorieuse, elle me gardera de l'erreur. Ainsi, mes actions te seront agréables, Seigneur. Je régnerai sur ton peuple avec justice. Je serai digne d'occuper le trône de mon Père. Quel homme, en effet, serait capable de comprendre ta volonté, ô Dieu ? Qui pourrait saisir ce que tu exiges, Seigneur ? Les raisonnements des mortels que nous sommes sont incertains. Nos idées ne sont pas sûres. Notre corps périssable est un poids pesant pour notre âme. Cette enveloppe terrestre alourdit l'esprit tiraillé par toutes sortes de soucis. Nous avons peine à nous représenter les réalités de ce monde et nous découvrons avec difficulté ce qui est à portée de nos mains. Alors, qui pourrait percevoir les réalités célestes ? Si quelqu'un a connu ta volonté, c'est toujours parce que tu lui as accordé la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les habitants de la terre ont été remis sur un droit chemin. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et ont été sauvés par la sagesse.
Voilà, quand nous préparions ce moment de baptême ensemble, j'ai demandé à Mathilde le texte sur lequel elle aimerait entendre prêcher pour ce jour-là, pour ce matin. Dans sa lecture, elle est tombée sur ce livre de la sagesse. Et dans ce livre, plus particulièrement sur ce texte que nous avons entendu. Un texte qui parle de la sagesse, dans le livre de la sagesse, conduit tout naturellement à un sermon sur la louange. Non, Mathilde, nous allons plutôt parler ce matin de toute la sagesse que nous te souhaitons pour vivre le reste de ta vie. La prédication sera courte, non pas que le sujet n'a pas de mots et qu'on ne pourrait pas s'étendre, mais c'est juste que depuis que je te connais, je pense que tu as déjà pris une certaine avance dans la recherche de la sagesse, donc déjà ça m'enlève pas mal de choses à dire, et surtout c'est un thème tellement vaste qu'en dire en 10 minutes comme ça, on n'arrivera pas au bout, donc j'accepte d'avoir une prédication un peu plus courte aujourd'hui. Alors bien sûr, il va nous falloir d'abord définir de quoi on parle quand on parle de sagesse, de quoi nous parlons lorsque nous disons par exemple qu'un enfant est sage. On est encore loin de Confucius, on est d'accord. Quand on dit que l'enfant est sage, on comprend qu'il s'agit là plutôt d'obéissance, de tranquillité, peut-être, il est sage. Et la Bible elle-même a sa propre manière de nous parler de ce mot, qui a mille connotations aussi en hébreu. En hébreu biblique, par exemple, « chokma », le mot qu'on utilise et qu'on traduit nous par « sagesse », très bizarrement, n'a pas toujours la connotation morale de modération ou de prudence. Le terme désigne plutôt un savoir-faire, c'est-à-dire une habileté à faire réussir une entreprise. Le sage, le mot « sage », « hakam » en hébreu, ça désigne facilement une personne qui est très bricoleuse, qui est très habile de ses mains, qui sait faire dans son corps de métier particulier, qui est expert. D'ailleurs, on pourrait traduire ce mot par « expert » en français, c'est-à-dire qui a l'expérience, l'expertise, qui est expérimenté. Dans l'ancien Israël, tous les corps de métier ont leur sage, et ça se voit de manière peut-être plus précise à chaque fois qu'il est question de construire quelque chose. Lorsqu'il est question de construire par exemple l'Arche d'Alliance, ou le Tabernacle, ou le Temple à Jérusalem. Ce sont des sages qui sont impliquée là-dedans. Alors, ceux qui me connaissent se doutent un peu que la sagesse dont je vais parler ce matin n'a pas grand-chose à voir avec une expertise en bricolage, et encore moins avec la docilité, l'obéissance, la modération ou la prudence dans la conduite. Non, je ne crois pas non plus que ce soit un but à atteindre dans la vie, la sagesse. Mais je vois la sagesse plutôt comme un idéal vers lequel on tend, plus que comme un objectif à atteindre à la fin de sa vie. Vous comprenez la différence. C'est un processus. Et c'est chemin faisant, dans ce processus, que c'est trouver les moyens de réussir sa vie et de tendre vers une vie bonne et heureuse, quels que soient les efforts à consentir pour se rapprocher de cet idéal. On comprend donc bien que la sagesse, comme la foi, n'est pas un contenu qu'on pourrait trouver une fois pour toutes et conserver avec soi et avancer avec. Comme la foi, elle vient, elle va, elle bouge, elle se déplace, elle est vivante. Si vous voulez apprendre comment fonctionne un robot mixeur ou une voiture, vous pouvez, c'est possible. Et une fois que vous le savez, vous le savez. Mais la sagesse et les choses spirituelles, évidemment, c'est l'affaire de toute une vie. Il ne s'agit pas tant d'acquérir quoi que ce soit que de vivre sous l'influence de la sagesse. Et vivre sous son influence, eh bien, c'est d'apprendre à vivre avec le cœur et l'intelligence pour vivre la vie la meilleure possible, après tout, pour grandir en humanité, pour être profondément heureux et le plus utile aux autres. C'est pour vaincre les choses négatives qui assombrissent notre âme et empoisonnent nos relations avec autrui. Alors, vouloir grandir en sagesse, c'est déjà faire un choix fondamental qui peut changer notre vie, celui de hiérarchiser nos valeurs. C'est se poser sérieusement les bonnes questions. Comment être toujours un peu plus moi-même? Comment m'accorder au monde? Comment devenir aimant et vertueux? Comment trouver les chemins de la libération intérieure? Comment grandir dans la joie et trouver la sérénité? Comment soigner et rendre toujours plus authentiques nos relations? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle priorité donner à mon existence? Est-ce que je veux avant tout posséder la richesse extérieure ou la richesse intérieure? Même si les deux ne sont pas incompatibles, c'est une histoire de priorité. Et ce sont les vraies questions qui nous font avancer et qui nous construisent. En fait, on peut voir la sagesse un peu comme une boussole précieuse parce qu'elle nous indique une direction et qu'elle nous donne les outils pour construire, pour prendre notre vie en main et être meilleur et plus heureux dans la vie. Elle nous invite à cesser enfin d'accuser toujours la vie, d'accuser les autres, justement à prendre notre vie en main pour que, en comprenant que la plupart de nos souffrances pourraient être évitées, juste en changeant d'état d'esprit, en changeant les représentations peut-être que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous avons du monde. Et je dis bien nos souffrances et non nos douleurs, parce que voilà, la douleur est universelle et qu'on ne peut l'éviter, mais lorsqu'à la douleur physique ou morale s'ajoute la colère, la tristesse, la haine, le ressentiment, la jalousie, le refus, le déni, la plainte, quelles que soient ces émotions négatives, alors la souffrance psychique et spirituelle vient s'ajouter à la douleur qu'on ressent. Bref, voilà de quoi je parle quand j'utilise le mot sagesse, en tout cas pour ce matin. Maintenant, voyons ce que nous en dit la Bible et ce passage en particulier que nous avons lu. Dans la version en français courant qui a été lue, on dirait que l'auteur reconnaît combien la sagesse est nécessaire et semble chercher à répondre à une question importante pour lui, mais pour les autres aussi. Comment discerner la volonté de Dieu dans ma vie? Une question qui peut être intéressante d'ailleurs pour un jour de baptême, parce qu'il y a toute une suite après ça, donc c'est très bien. Et l'auteur a l'air très à l'aise avec le sujet. Pour lui, ça ne semble pas être du tout un problème. La volonté de Dieu se trouve dans la sagesse. Et la sagesse se trouve dans cette parole qui a été confiée aux hommes pour qu'ils puissent l'écouter et discerner justement ce qui vient, dans cette parole qui construit celui qui l'écoute et qui lui permet d'avancer, qui lui permet de discerner, de faire ses choix, le conduit dans la vie avec une marche assurée. Mais pour notre auteur, cette écoute, cette sagesse de cette parole ne suffirait pas en elle-même pour pouvoir être efficace dans la vie de l'être humain. Il semble y avoir besoin de quelque chose qui transforme par une sorte d'alchimie cette sagesse en action. Quelque chose qui opère la transformation du savoir en être. Au verset 17 et 18, nous avons lu « Si quelqu'un a connu ta volonté, c'est toujours parce que tu lui as accordé ta sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les habitants de la terre ont été remis sur un droit chemin, c'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et ont été sauvés par la sagesse. » Peut-être un mot sur la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu ne concerne pas tant sa volonté pour mon prochain, bien sûr, ou pour les autres, que sa volonté pour moi-même. À ce moment de ma vie, quelle décision prendre? Dans quelle direction partir? Dans quelle voie m'engager? Comment choisir? Comme on le disait la semaine dernière, pécher, c'est passer à côté de sa vie. C'est rater la cible, rater le but. Ça arrive beaucoup, ça arrivera encore beaucoup, à beaucoup d'entre nous. C'est arrivé par le passé, surtout, énormément, à beaucoup de personnes, mais pour certains, leur écoute de la parole, de la sagesse et l'action de l'Esprit-Saint les ont remis sur un droit chemin, nous dit le texte. C'est-à-dire le chemin de leur vie épanouissante. La volonté de Dieu, c'est en fait le meilleur pour l'être humain. Dieu veut le meilleur pour nous et pour chacun d'entre nous. Et nous sommes tous différents, donc il ne veut pas la même chose pour chacun. Il ne veut pas autre chose que notre plein épanouissement, de manière à ce que nous aussi, une fois épanouis, nous puissions aller vers les autres, les aider à cheminer vers leur propre bonheur, dans leur propre marche. Bref, découvrir la volonté de Dieu, c'est d'abord écouter sa volonté pour ma vie. Ce que j'espère d'ailleurs, nous venons faire tous les dimanches ici, et pas seulement à l'occasion d'un baptême, mais c'est une chose à répéter et tous les dimanches matin. Ainsi, notre livre de l'Ancien Testament nous dit que la sagesse est inséparable de l'esprit pour la traduire en vérité, pour traduire cette sagesse en vérité dans nos vies, dans nos âmes, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos réactions, dans tout ce que nous sommes. Maintenant, s'il est vrai que cette sagesse de vie se cherche dans l'écoute des Écritures, bien sûr, elle ne s'y enferme pas. Elle peut se dire aussi à travers toute notre humanité, à travers nos philosophies, nos cultures, nos lectures, nos livres, nos religions, nos relations. Tant de sagesse s'est exprimée à travers d'autres traditions que la nôtre, en tout cas. C'est comme si toute la sagesse de Dieu cherchait à se dire, à se partager à mille endroits et de mille manières différentes. Personnellement, je ne sais pas, moi, si tous les chemins mènent à Dieu. J'ai même un doute par rapport à ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est assez grand et assez large pour nous rejoindre sur chacun de nos chemins, quel qu'il soit. Et justement, rechercher la sagesse, c'est une chose. Mais il y a tant de directions à prendre lorsqu'on décide d'avancer sérieusement sur ce chemin. Alors, par où commencer ? Déjà, un exercice important qu'on pourrait s'imposer, parce qu'il conditionne tous les autres, c'est de maintenir l'intention et la vigilance. Maintenir l'intention, ça veut dire avoir chaque jour à l'esprit que je souhaite grandir en humanité, que je désire m'améliorer, devenir un peu plus moi-même, devenir plus conscient, plus aimant, plus responsable, et bien sûr, renouveler cette intention. Maintenir la vigilance, c'est avoir tout ça bien à l'esprit, bien présent en tête, notamment face à toute situation qui implique un choix, ou qui se retrouve face à des émotions très fortes, des réactions émotionnelles fortes. Là, c'est important d'avoir vraiment tout ça en tête. Maintenir la vigilance, maintenir l'intention. C'est comme ça que nous pouvons faire face, de la manière la plus appropriée possible, à tout événement. Et que nous pourrons, pas à pas, petit à petit, grandir en sagesse. Alors on comprend bien que vouloir s'améliorer un jour et ne plus y penser ensuite, est une démarche qui ne sert absolument à rien. On est bien d'accord. Grandir en humanité, c'est un travail de chaque jour, c'est une attention aussi permanente à tout ce qui se passe en nous, à nos réactions face aux événements, face aux relations, dans nos relations avec les autres, et c'est bien là la base de tout. Et c'est ainsi que progressivement, on pourra changer son esprit, faire preuve de davantage de discernement et de souplesse, qu'on pourra élargir son regard. Tout se joue au quotidien dans cette intention constante. Alors aujourd'hui, Mathilde, tu t'engages sur ton propre chemin de recherche de sagesse avec l'esprit du Christ ressuscité pour t'inspirer, pour inspirer tes recherches et les transformer en belles actions pour ce monde. Avec lui, tu t'engages à mettre toujours la sagesse reçue en œuvre, avec nous tous aussi, pour élargir le royaume de Dieu, c'est-à-dire rendre le monde meilleur, plus doux, plus vivable, plus joyeux. Nous voulons avec toi marcher dans ce désir, et c'est cet état d'esprit que nous appelons sur toi. C'est cette sagesse que nous te souhaitons pour ta vie. Oui, nous te souhaitons, comme à nous tous d'ailleurs, de tendre avec grâce vers cet idéal d'une vie noble, consciente, lucide, responsable, aimante, harmonieuse, juste, sereine et surtout libre et terriblement joyeuse. Amen.